Bonjour, au micro Idrissa Seydoulia. Le président républicain Donald Trump a annoncé lundi soir qu'il permettait l'ouverture du processus de transition vers une administration Biden aux États-Unis, plus de deux semaines après l'annonce de la victoire du démocrate Joe Biden par les principales chaînes de télévision du pays. Monsieur Trump s'est toutefois encore gardé de reconnaître directement une telle victoire. Il a promis sur Twitter de poursuivre un juste combat alors qu'il multiplie les recours en justice, sans succès jusqu'ici, pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin présidentiel du 3 novembre. Et je crois que nous triompherons, a assuré Monsieur Trump, néanmoins a nuancé le président sortant. Dans l'intérêt supérieur de notre pays, je recommande que l'agence gouvernementale chargée de la transition fasse ce qui est nécessaire concernant les protocoles et j'ai demandé à mon équipe de faire de même. L'équipe de M. Biden a aussitôt pris note d'une étape permettant un transfert de pouvoir pacifique et sans accroc. Le démocrate a lui-même déjà commencé à nommer des membres de son futur gouvernement, dont plusieurs personnalités chevronnées de l'ancienne administration Obama, comme Anthony Blinken, pour le département d'État. L'ex-chef de la diplomatie américaine John Kerry, 76 ans, a été élu, choisi comme émissaire spécial du président sur le climat, signe de l'importance qu'accorde M. Biden à ce dossier. Au Burkina Faso, l'opposition a une nouvelle fois accusé lundi le pouvoir du président Roch Marc Christian Kabore, favori du scrutin, de fraude lors de la présidentielle de dimanche. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre correspondant sur place, Kader Traoré. Éthiopie, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce mardi sa première réunion sur la guerre au Tigré, à la demande de l'Afrique du Sud, du Niger, de la Tunisie et de Saint-Vincent et les Grenadines. Selon des sources diplomatiques citées par l'AFP, cette réunion virtuelle se tiendra à huis clos. Nous reviendrons sur la situation en Éthiopie avec Abdulrahman Diab. Au Cameroun, deux avocats, dont un membre du parti du leader de l'opposition au président Paul Biya, ont été condamnés lundi à 6 mois de prison avec sursis pour dégradation de biens publics et rébellion, selon l'AFP. Richard Tamfou et Armel Tuemenye avaient été arrêtés mercredi à Douala à la suite d'échauffourées le 10 novembre, dans un tribunal où les policiers étaient intervenus violemment pour déloger des avocats manifestant pour la libération de deux des leurs. En République démocratique du Congo, condamnation à perpétuité du chef de guerre Ntabo Ntaberi, alias Cheka. Eddie Sango fera le point dans quelques instants. En Sierra Leone, dans le cadre d'une campagne de son successeur Julius Mada Bio, l'ancien président Ernest Bai Koroma a été interrogé lundi par une commission enquêtant sur des faits présumés de corruption et de détournement commis sous sa présidence de 2007 à 2018, ont indiqué deux responsables sous couvert d'anonymat. Plusieurs anciens responsables de son ex-administration ont déjà été arrêtés. Le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l'Université d'Oxford, a développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire 98 à 90% dans certains cas. Ses concurrents Pfizer et Moderna revendiquent une efficacité supérieure à 90%, mais la formule britannique utilise une technologie plus traditionnelle, rendant son futur vaccin moins coûteux et plus facile à stocker, puisqu'il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température. Espace, c'est la première mission du genre depuis celle menée par l'ex-Union soviétique en 1976. La Chine a lancé mardi vers la Lune une sonde destinée à collecter des échantillons de roches et de les ramener sur Terre. Le Monde, aujourd'hui, La suite de nos informations. Au Burkina Faso, les partis signataires de l'accord politique de l'opposition ont rejeté la proclamation des résultats des élections présidentielles et législatives du 22 novembre. Ils reprochent à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, d'avoir commis de nombreuses irrégularités et accusent le MPP, le parti au pouvoir, d'avoir orchestré des fraudes. La majorité présidentielle, elle, les taxe de mauvais perdants. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Au lendemain du double scrutin présidentiel et législatif au Burkina, les positions se radicalisent au sein des différents états-majors. L'opposition politique signataire d'un accord d'union en cas de second tour a fait une déclaration publique dans laquelle elle a ouvertement accusé la CENI, la Commission nationale indépendante électorale, d'avoir bâclé l'organisation du scrutin.
Malgré nos multiples mises en garde contre toute proclamation précipitée des résultats,
Eroubari, candidat du MCR et signataire de l'accord politique de l'opposition.
Contrairement aux dispositions du code électoral qui prévoient une compilation manuelle des résultats au niveau des centres communaux de compilation, CCRN, la CENI a procédé à l'annonce des résultats sans avoir procédé à cette compilation manuelle.
Du côté de la majorité présidentielle, on taxe l'opposition de mauvais perdants. Souleymane Sam est membre de l'UNIRPS, un parti de la majorité.
C'est dû l'égalité là. Influence les résultats des votes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité. C'est-à-dire qu'ils ont déjà leurs résultats. Ils sont sûrs qu'ils perdent, qu'ils le mettent en cause. Ils veulent qu'on suspende la compilation des résultats.
Quoi qu'on dise, la commission électorale a fauté. Lionel Bilgo, analyste politique, est formel là-dessus.
L'organisation a péché en termes d'efficacité, en termes de perfectionnalisme. Et là, on constate également que ça a créé des rancœurs, ça a dû créer, susciter également de la méfiance par rapport aux résultats.
Hier dans la soirée, les conseillers de la CENI issus de l'opposition ont suspendu leur participation à la proclamation des résultats provisoires. Cela pourrait entraîner une crise post-électorale. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
En Éthiopie, le président de la région septentrionale dissidente du Tigré a affirmé lundi que son peuple était prêt à mourir au lendemain de l'ultimatum de 72 heures lancé par le premier ministre Abiy Ahmed aux dirigeants tigréens pour qu'ils se rendent. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est un Debretsion Gebre Michael défiant qui a réagi à l'ultimatum du premier ministre éthiopien. Combien de fois a-t-il dit 3 jours? Il ne comprend pas qui nous sommes. Nous sommes un peuple de principe et prêt à mourir pour défendre notre droit à administrer notre région, a dit le président de la région du Tigré et chef du TPLF. Pour lui, il s'agit de camoufler la défaite que l'armée éthiopienne a subie sur 3 fronts. Afin d'avoir du temps de se regrouper, a-t-il dit, sans préciser de quel front il s'agissait. Près de 3 semaines après le début de cette opération militaire visant à rétablir son autorité, le pouvoir fédéral éthiopien projette d'encercler prochainement Mekele, capitale du Tigré et siège du gouvernement local, issu du Front populaire de libération du Tigré. Addis Abeba affirme vouloir le remplacer par des autorités légitimes. Il y a 10 jours, Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, avait lancé un ultimatum aux combattants tigréens, les appelant à faire défection au profit de l'armée fédérale. Quelques jours plus tard, il avait annoncé que l'intervention militaire au Tigré, lancée le 4 novembre, entrait dans sa phase finale.
En République démocratique du Congo, Thabo Ntaberi, alias Cheka, ex-chef de guerre du groupe armé Nduma Defense of Congo, a été condamné lundi à la prison à perpétuité à Goma. Le point avec Eddy Issango.
La sentence est tombée après 2 années de procès. 3 des coups accusés d'Ntabo Ntaberi alias Cheka ont également écopé des peines allant de 15 ans de prison à la perpétuité comme lui. Ils étaient accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Selon l'ONU, les NDC, leur mouvement qui disait combattre les rebelles rwandais des FDLR, est accusé de la mort de 287 personnes lors des attaques contre 13 villages dans les territoires de Walikale, entre juillet et début août 2010. 380 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été violées et 154 enfants de moins de 15 ans ont été recrutés par le groupe. Les avocats des victimes ont affirmé que ces condamnations devraient constituer un signal fort à d'autres seigneurs de guerre. Des groupes armés locaux et mouvements rebelles étrangers pullulent l'est de la RDC. Selon l'ONU, 1300 morts ont été enregistrés en 8 mois dans des affrontements entre ces groupes armés et l'armée régulière.
La Minute Écho, John Lind.
Près de 4 mois après l'annonce du président algérien de libéraliser le secteur du transport aérien en Algérie, la compagnie low-cost Emirati Air Arabia est intéressée. Présente au Maroc depuis 2009, Air Arabia, le plus grand transporteur à bas prix du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a transporté plus de 512 000 passagers vers le royaume chérifien. Le président algérien avait indiqué que l'État allait débloquer 12,5 milliards de dollars pour aider à libéraliser le secteur du transport. Le Rwanda va accueillir le siège du FEDA, le Fonds pour le développement des exportations en Afrique. Ce fonds avait été créé en 2019 par la Banque africaine d'import-export. Les accords signés par Alfred Kaliza, l'ambassadeur du Rwanda en Égypte, et le président d'Afreximbank, Bénédicte Orama, permettra l'établissement du siège du FEDA à Kigali. Doté d'une enveloppe initiale de 350 millions de dollars, l'objectif du fonds est de financer les entreprises africaines pour promouvoir le commerce intra-africain. La Côte d'Ivoire et le Ghana font front commun depuis 2019 face aux industriels. Ils ont fait monter le cours de la fève de cacao alors même que la demande est en berne à cause de la pandémie de COVID-19. Sur le marché de New York, la tonne de cacao pour livraison en décembre a grimpé de plus de 25% depuis vendredi dernier pour cumuler à 2915 dollars.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Vous l'avez suivi hier, la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la CAF, Ahmad Ahmad, lui infligeant une amende de 185 000 euros, entre autres pour détournement de fonds. Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième mandat, avait été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris. La justice interne de la FIFA, dont Ahmad est vice-président, a estimé que le patron de la CAF, je cite, avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. L'enquête de la commission d'éthique a porté sur diverses questions, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses acquaintances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités selon la FIFA. Vous pourrez suivre dans la partie magazine de cette édition une analyse de notre consultant en sport Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc. Dans le reste de l'actualité sportive, cette triste nouvelle, l'ancien international sud-africain Anele Ngonka, 33 ans, est décédé hier dans un accident de voiture. Il avait quitté Johannesburg en direction de Durban pour rejoindre sa nouvelle équipe d'Amazulu, où il a été prêté par Mamelodi Sundowns. Le latéral droit international a fait partie de la sélection sud-africaine lors de la Coupe du Monde 2010 disputée à domicile. Nkonka a évolué 53 fois sous le maillot des Bafana Bafana, sa dernière apparition en sélection remontant à 4 ans après des débuts professionnels au FC Fortuna du Cap. Il a passé 9 ans en Europe, jouant pour Genk en Belgique entre 2007 et 2015 et en prêt à Troyes en France lors de la saison suivante. Sur le terrain, c'était un grand footballeur, bien que souvent sous-estimé, et en dehors du terrain, c'était un véritable gentleman, a indiqué Pitso Mosimane, ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud. Ce soir, en Europe, la Ligue des Champions peut dévoiler ses premiers qualifiés pour les huitièmes de finale, à suivre Krasnodar FC Séville, Rennes-Chelsea. Face aux deux néophytes de leur groupe, Chelsea et Séville peuvent être les premiers qualifiés. Deux autres grosses écuries seront qualifiées en cas de victoire, la Juventus Turin et surtout le FC Barcelone, premier du groupe G. Les Barcelonais peuvent décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale en cas de victoire en Ukraine
contre le Dynamo Kiev. Pareil pour la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo si elle dispose à domicile des Hongrois de Ferencváros. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain joue un match critique face au RB Leipzig. Le leader de leur groupe Manchester United tentera, lui, de se venger à Old Trafford du Başakşehir qu'il avait battu 2-1 à Istanbul, mais les Mancuniens ne seront pas qualifiés ce soir, quoi qu'il arrive.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seguia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, lui infligeant une amende de 185 000 euros pour détournement de fonds. La justice interne de la FIFA, dont Ahmad Ahmad est vice-président, estime que le patron de la CAF a accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction. Yacouba Ouédraogo a joint à Casablanca notre consultant en sport, Amine Birouk.
On lui reproche deux faits qui sont avérés. L'affaire Tactical Steel concernant les équipements sportifs, il aurait touché une grosse plus-value via des sociétés écrans ou des sociétés d'amis. Et puis, tous les voyages à la Omra, à la Mecque, qui ont été faits vers les, en direction des présidents de fédérations de confession musulmane. Je suppose aussi que c'est après l'audit de Fatma Samoura qu'il a permis de lever le voile sur beaucoup de pratiques qui existaient dans le football africain. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être aussi le contre-coup politique, parce qu'il faut rappeler que Infantino est parti mécontent de la dernière réunion qui avait été organisée à Rabat, où le mandat de Fatma Samoura n'avait pas été prolongé.
On se rappelle de cette tournée d'Infantino en Afrique où il avait proposé pratiquement une Coupe d'Afrique des Nations à la CAN, donc tous les 4 ans. Ahmad n'était pas d'accord. On se rappelle aussi de cette fameuse Ligue des Champions à 20 clubs fermés en Afrique. Est-ce que c'est véritablement des questions de corruption plutôt que des questions de vision qui limitent la FIFA et la CAF?
Ce sont les deux. Il n'y a pas eu de fumée sans feu dans l'affaire Tactical Steel. Ahmed Ahmed a été interrogé par la police française. Il a passé de nombreuses heures en garde à vue avant d'être relaxé. Je me rappelle évidemment de son passage au Maroc où il avait évoqué la CAN tous les 4 ans. Je pense que c'est une chimère du football du Nord par rapport à notre continent. Mais est-ce que ce ne serait pas la solution la plus sage? Parce qu'aujourd'hui, trop de compétition tue la compétition. On a des CAN tous les 2 ans, des CHAN qui sont là. Vous avez la Champions League chaque année. Et puis, ce sont des produits qui ne sont pas très rentables.
L'Assemblée générale élective à la CAF, c'est pour mars 2021. Ahmad s'est déclaré candidat. Pourquoi c'est maintenant que cette suspension-là tombe?
Je dirais qu'il y a une guéguerre et une fracture entre francophones et anglophones. Aujourd'hui, le camp anglophone va marcher en rang serré derrière le candidat sud-africain qui bénéficie de la bénédiction de la FIFA, mais qui ne bénéficie pas de l'appui de la majorité du comité exécutif de la CAF. Dont deux des membres sont des candidats déclarés. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise depuis 2009. Ahmed Yahya, qui est un jeune candidat dynamique, il a 44 ans, il est derrière le boom du football mauritanien. Puis Jacques Anouma, qui est un vieux routier du football africain. Est-ce que les francophones ont intérêt à avoir de multiples candidatures et de diviser leur voix? Je dirais non. Est-ce qu'il est là pour une candidature de témoignage? Est-ce qu'il est sûr de faire le plein de voix? Ou est-ce qu'il va chercher à prendre quelques voix francophones pour faciliter la candidature du représentant sud-africain? Ce sont des interrogations dont il faudra rapidement avoir des réponses. Le 12 janvier, c'est la date butoir pour la présentation des candidatures définitives. Et puis le 12 mars, il y a un scrutin.
On le sait, l'ère Issa Hayatou révolue, dit-on, avec son lot de corruption et autres. Est-ce qu'on est en train de replonger?
J'avais l'espoir, j'avais l'intime espoir qu'on allait tourner la page Issa Hayatou avec de belles avancées, mais également de très gros défauts, et notamment une gestion autocratique. Seule histoire pourra permettre de juger les bonnes intentions d'Ahmed Ahmed. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était une candidature de transition entre l'ancienne CAF et la future CAF.
Notre consultant sportif Amine Birouk, joint à Casablanca, au Maroc.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
le Cameroun s'engage pour la délimitation et la démarcation de ses frontières avec les pays limitrophes, le Tchad, le Congo, le Gabon et la République centrafricaine. Les activités à mener à cet effet par le gouvernement vont porter sur la gouvernance durable des frontières, la prévention des conflits et l'intégration sous-régionale. Ces activités cadrent avec le projet d'appui au programme Frontières lancé en 2009 par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Vulntap.
Le projet appui au programme Frontières a été initié en 2007 par l'Union africaine et vise à promouvoir la paix et la sécurité transfrontalière. Au sein de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, sept frontières pilotes ont été identifiées comme potentiel point de départ des conflits violents entre les États membres. Le Cameroun est concerné par quatre de ces zones limitrophes pilotes. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale.
Au Cameroun, ces activités visent la démarcation, la réaffirmation ou la réhabilitation des frontières, la densification des bornes frontières.
La date butoir pour la démarcation des frontières est fixée à janvier 2022. Hormis la délimitation des frontières, la CEAC encourage aussi le Cameroun à signer des accords de coopération transfrontalière, à expérimenter la gestion commune des frontières avec ses voisins en impliquant la police, les services des douanes, les élus locaux, les femmes et les jeunes. De telles initiatives sont impérieuses dans les régions de l'extrême nord et du nord Cameroun, frontalière au Tchad.
Même les forces de maintien de l'ordre ont des soucis à maîtriser les frontières. C'est très difficile de déterminer à quelle partie du pays appartient telle frontière.
Jean Oumarou, conseiller technique du projet Appui au programme Frontières au sein de l'Agence de coopération internationale allemande, la GIZ, partenaire du projet.
L'absence de matérialisation de nos différentes limites avec les États voisins crée beaucoup de problèmes, notamment la crainte pour les investisseurs de s'y hasarder, les populations locales qui s'y aventurent pour découper le bois ou bien faire perdre les animaux sont arrêtés du fait qu'on croit qu'ils se sont introduits dans l'autre territoire et ils sont amenés à payer des amendes, ils sont gardés à vue.
Le ministère allemand des Affaires étrangères et l'Union européenne financent à hauteur de 10 millions d'euros ce projet. Sébastien Bergeon, chargé d'affaires à la délégation de l'Union européenne au Cameroun.
Les crises, les conflits, les maladies n'ont pas de frontières et donc il faut travailler ensemble, de manière coordonnée, de manière intégrée, justement pour essayer de faire face à ces crises de nature transfrontalière. C'est pour que les populations civiles autour de ces frontières puissent avoir des meilleures conditions de vie.
Selon des experts, des phénomènes tels que le trafic humain, de la drogue, le braconnage, le pillage des ressources naturelles, la circulation des armes de petit calibre sont florissants aux frontières du Cameroun. Jean Oumarou, conseiller technique du projet Appui au programme Frontières au sein de l'Agence de coopération internationale allemande, GIZ.
C'est des phénomènes négatifs qui malheureusement affectent la population, la paix, le développement au niveau local. Toutes les frontières sont concernées à cet effet.
Les régions de la Damawa et de l'Est, limitrophes à la République centrafricaine, et la région du Sud, frontalière avec le Gabon, vont accueillir les prochaines campagnes de sensibilisation de la population sur le bien fondé du projet Appui au programme aux frontières. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Bénin, le président Patrice Talon a promis lors d'une tournée à l'intérieur du pays de s'engager dans l'organisation d'une élection présidentielle inclusive en 2021. L'opposition attend de voir, un an après le dialogue politique visant à aplanir les divergences, qui n'a pas eu l'effet escompté. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Les élections présidentielles en 2021 seront-elles inclusives? Je vous promets, c'est un engagement que je prends, que l'élection présidentielle à venir verra la participation de tout le monde, a su Patrice Talon. Mais l'opposition et la société civile pensent que les élections législatives et municipales ont créé le champ pour les échéances électorales. Le dialogue politique national n'a pas vraiment joué le rôle qui lui revenait. Pour Maître Sadi Koualao, président de GEDES Afrique, le dialogue national politique a été une perte de temps.
Ceux qui ont parlé de dialogue ont effectivement atteint leur objectif, mais pour la nation, il n'y a pas eu de dialogue que tout le monde attend. Non seulement, je parle aussi de la société civile et du monde social, du monde des travailleurs, parce que le dialogue que tout le monde attendait n'est pas un dialogue pour aboutir à la modification du cadre institutionnel. C'est un dialogue, mais tout le monde allait pas sur des bases nouvelles qui aiment tout le monde, non seulement pour la paix, aussi pour le social et pour le développement économique.
Si on s'en tient au dernier développement de l'actualité sur le parrainage, l'opposition a de fortes chances de décrocher des parrains pour ses candidats à la présidentielle de 2021. À en croire les différents leaders de la mouvance, seuls en mesure de parrainer des candidats, le parrainage sera ouvert pour permettre une élection inclusive. L'opposition y voit un piège, mais le député Gérard Benouchi les qualifie de turbulence d'un parcours normal.
Nous sommes fiers de ce qui se passe et nous pensons que d'ici quelques années, nous aussi, notre démocratie sera stabilisée. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est les turbulences d'un parcours normal. Moi-même, je suis convaincu que pour la crédibilité des élections qui viennent, il faut qu'il y ait pluralité des candidatures. L'objectif de la réforme du système partisan, c'est de crédibiliser la classe politique, c'est de crédibiliser les élections présidentielles pour que nous n'ayons plus de plaisanteries.
L'opposition réclame le retour des exilés politiques, la libération des opposants emprisonnés. De nombreux observateurs dénoncent régulièrement un tournant autoritaire du président Talon depuis son élection en avril 2016. Ils pointent du doigt plusieurs mesures interdisant ou restreignant le droit de grève et de rassemblement public. Pour Dieudonné Lokosou, ancien syndicaliste, le dialogue national passé a été un rassemblement entre amis.
Lorsqu'on parle de dialogue national, il doit avoir toutes les composantes. Je n'ai pas remarqué la présence des syndicalistes, qui sont des maillons essentiels de la démocratie. Alors, si on a trié sur le volet des gens d'un même bord, des gens qui soutiennent de façon aveugle tout ce qui se passe, moi, je ne peux pas appeler ça dialogue national. Ça, c'est eux-mêmes qui l'ont baptisé ainsi.
Patrice Talon, au cours de sa tournée nationale, a été souvent interpellé sur ce que sont devenues les élections au Bénin. Sans merci que se livrent les acteurs politiques. Mais il est convaincu que si chacune des forces politiques joue pleinement sa partition, les élections au Bénin seront de nouveau des moments de fête et nous aurons ainsi gagné le pari des réformes politiques, a-t-il déclaré. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le nombre de réfugiés éthiopiens fuyant les combats dans le Tigré vers le Soudan continue d'augmenter. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge parle de 40 000 réfugiés qui ont déjà traversé la frontière et appelle à une aide urgente pour leur prise en charge. Abdourahman Dia a joint à Nairobi le chargé de communication de la Fédération en Afrique, Eloge Ishimwe.
Oui, la situation devient de plus en plus inquiétante. Donc, à l'heure qu'il est, plus de 40 000 personnes originaires d'Éthiopie ont déjà franchi la frontière avec le Soudan. Et le nombre continue de s'augmenter chaque jour. Il y a des gens qui ont déjà franchi la frontière, sont arrivés par trois points d'entrée. Donc, il y a Hamdayet, Al-Jazira et le Koudi. Donc si les combats se continuent, donc s'intensifier, le nombre aussi risque d'augmenter davantage.
Donc vous parlez d'au moins 40 000 qui sont déjà arrivés sur place. Et quelle est la situation qu'ils vous décrivent, la situation qu'ils ont laissée sur place?
Donc il y a des enfants qui n'ont pas mangé pendant des jours. Donc il y a des enfants non accompagnés. Il y a des familles avec des mamans affaiblies, donc ils ont marché de longues distances, sans rien à manger. Donc à l'arrivée aussi, il y a des gens qui arrivent avec des conditions de santé qui sont préoccupantes. Donc c'est l'une des tâches qui nécessite donc une intervention urgente. C'est ce que nos équipes de la Croix-Rouge, des croissants rouges soudanais sont en train de fournir actuellement parce que donc il y a des gens qui ont besoin d'assistance urgente donc en ce qui concerne donc les médicaments.
Comment se passe un peu la prise en charge justement de ces réfugiés qui arrivent au Soudan?
Donc en ce qui concerne l'appui qu'on est en train de fournir, Les équipes du Croissant-Rouge soudanais travaillent en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, on a réhabilité des cliniques et on a effectué des examens de santé. On a aussi effectué des consultations médicales et des aiguillages.
Loge Ishimwe de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la maison.